France Culture.
Les pieds sur terre, Karine Leloette.
Nous sommes le 17 février dernier, 3 jours après le décès de Quentin Deranque, ce jeune identitaire mort à Lyon suite à un affrontement avec des antifascistes. Ce jour-là, l'eurodéputé Marion Maréchal prend la parole sur BFM TV.
S'il peut y avoir bien sûr des groupuscules d'extrême droite, en fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche.
Mais il y a des morts, vous le savez.
Non mais elle est dérisoire, je veux dire, ça n'existe pas statistiquement.
Le problème, c'est que la violence d'extrême droite est loin de l'être dérisoire. Pour le prouver, nos confrères du Vrai ou Faux de France Info ont fait les comptes. Celui des morts d'abord. Il y a Hichem Mirawi, assassiné en mai 2025 par son voisin, Christophe Beljambe, parce qu'il était tunisien. Il y a aussi Clément Méric, tué en juin 2013 lors d'une rixe avec des militants d'extrême droite. Selon la sociologue Isabelle Sommier, spécialiste des violences politiques, 6 meurtres pourraient être ainsi imputés à l'ultra-droite depuis 2022. Selon cette même chercheuse, l'extrême droite aurait tué 58 personnes depuis 1986, contre 6 pour l'extrême gauche. Et puis, au-delà des morts, il y a les menaces. En 2023, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, recensait 10 projets d'attentats déjoués en 6 ans, contre un seul pour l'ultra-gauche. Évidemment, ce n'est pas une compétition, et rien ne saurait justifier la violence d'un camp ou de l'autre. Mais une chose est sûre, la menace d'ultra-droite n'est pas dérisoire. Parmi ses victimes, il y a Erwan, tombé sous les coups de militants identitaires en 2017. On l'écoute au micro de Maxime Pionneau.
Je m'appelle Erwan, j'ai 27 ans et j'habite à Nantes. C'était le 7 mai 2017, la journée où, dans la soirée, il y a l'élection présidentielle de second tour. Donc Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Ce jour-là, il y avait beaucoup de manifestations anti-Macron, anti-Le Pen. La manifestation, c'était surtout pour fêter la défaite de Marine Le Pen. À l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans. Je me rappelle que j'avais même pas voté, ni au premier tour, ni au second tour, parce que vraiment la politique, je m'y intéressais pas du tout. J'avais arrêté un petit peu les études. J'allais reprendre un CAP en cuisine et à l'époque je vis chez ma mère, donc à Nantes, on vivait en HLM, mais on s'en plaignait pas. J'adorais mon quartier et je l'adore toujours d'ailleurs. Avec mon meilleur ami, Steven, on a décidé de faire comme on faisait à peu près tous les jours, c'est-à-dire d'aller faire du vélo, de sortir un peu du quartier pour aller dans le centre-ville de Nantes. C'était vraiment une journée banale, entre deux potes. On a mangé un kebab aussi, le midi, et puis on a passé l'après-midi là-bas. Les souvenirs sont quand même un petit peu flous, mais j'ai des petits souvenirs comme ça, enfin, notamment l'après-midi surtout, où il y a vraiment ce moment où le centre-ville, il se transforme un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des CRS un peu de partout, il y a vraiment une ambiance qui commence à se mettre dans le centre-ville. Bien sûr, on était jeunes, donc quand on a vu qu'il y avait une manifestation, on s'est dit « bon, on va rester, on va regarder ». Et je me souviens que ma mère, elle nous avait rejoints. Puis après, il y a eu ma sœur. Nous, on part de la manifestation quand vraiment on commence à voir que ça devient dangereux, qu'il y a cette pression qui se transforme en chasse un petit peu. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les policiers qui courent après tout le monde. D'un autre côté, on nous dit qu'il y aurait des militants d'extrême droite qui tournent avec des casques de moto. Donc là, on se dit « bon ». Voilà, on n'a plus rien à faire, quoi. On va pas rester ici, on part. Donc ma mère, elle va prendre le dernier tramway ou l'avant-dernier. C'était vers minuit, à peu près, 23h30, minuit. Et avec Steven, on se dit, bon, on prend le tramway avec elle, comme on le fait souvent, mais cette fois-ci, on a nos vélos. Puis bon, pas de chance, il y a trop de monde dans le tramway. Donc le chauffeur nous demande de descendre avec nos vélos. Et juste avant que les portes du tramway se ferment, j'ai dit à ma mère, bon bah t'inquiète pas, de toute façon dans 20 minutes on est à la maison. Sur la route, il y a ma sœur qui m'appelle pour me dire que elle est bien arrivée chez elle qui est partie en scooter juste un petit peu avant nous. Donc je lui ai dit, ok, très bien, bah écoute, nous on arrive à Duchafaud, donc bon bah je vais te laisser parce qu'il y a la grande montée, et puis bon, avec le téléphone dans les mains, c'est pas évident. Duchafaud, c'est le nom de l'arrêt de tramway en fait, où on passe à ce moment-là, quoi. Et donc juste avant, je commence à accélérer, donc je vois Steven qui galère un petit peu derrière. Mais je me dis, bon, bah, je l'attendrai en haut. Donc je continue. Et sans trop savoir pourquoi, juste en passant devant l'arrêt de tramway, en fait, bah, là, tout va très vite, en fait. Je me retrouve par terre, avec trois mecs autour de moi, qui ont l'air super énervés, qui me posent des questions que je comprends pas du tout. Une des premières questions, c'est « T'es Antifa ?» J'ai même pas le temps de répondre finalement, et puis je me prends directement des coups. Donc c'est des coups portés au visage, très violents. Et après, de mon agression, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Je me rappelle de quasiment rien. Je sais que je reçois du gaz lacrymogène dans les yeux, des coups sur la tête, des grands coups de pied. Et puis après, je tombe inconscient très, très rapidement. Steven... du coup, qui commence à arriver sur au niveau de cet arrêt de tramway, lui aussi va se faire frapper. Et au moment en fait où il se fait lui attaquer, il y a une voiture qui heureusement fait demi-tour et porte assistance à Steven en premier. Les agresseurs sont mis en fuite. Et Steven, il dit, bah, faut que j'appelle mon pote. J'étais avec mon pote juste avant. Donc Steven, qui pensait que j'avais pris beaucoup d'avance et que finalement j'étais limite peut-être arrivé chez moi. Et il y a ce témoin, enfin ce conducteur de la voiture qui se dit, bon bah, je décale juste ma voiture parce que je suis en plein milieu de la route quand même. Et en allumant les phares de la voiture, il voit des pieds dépasser de la route un petit peu plus haut, donc il se gare. Il descend de la voiture et c'est là que il me trouve en fait. Et donc il me met tout de suite en PLS, appelle les secours, les pompiers, la police. Les pompiers, ils arrivent au bout de 20 minutes, je crois que ça a été assez long. Donc les pompiers, ils arrivent, ils nous portent assistance. Il rappelle une fois la police pour dire notamment qu'il y a un mineur aussi dans les victimes. À ce moment-là, je suis inconscient. Il y a le conducteur de la voiture qui a témoigné au procès, qui nous a porté secours. Il décrit la scène. Hein. Je suis dans une mare de sang, je bouge plus, je respire très très fort. Il y a du sang partout sur mon visage. Je crache du sang, il me semble. Enfin, il sait pas trop s'il peut me toucher parce que bah il avait peur que justement les cervicales soient touchées. On est emmené à l'hôpital directement. Il y a des témoins qui restent sur les lieux de l'agression et qui attendent la police. Et en fait, les policiers, ils sont jamais arrivés sur place. Je me réveille à l'hôpital après 5 jours de coma. Je comprends rien du tout. Je me réveille, je vois qu'il y a tous ces regards super inquiets qui me disent bonjour, surtout tu ne bouges pas, tu fais rien, tu poses pas de questions et tu dors, tu te reposes. Et donc je me dis bah, il doit se passer un truc quand même assez grave, parce que j'avais mal partout, je touche mon visage, j'ai des tuyaux un petit peu partout, sur le visage, sur le ventre. C'était vraiment comme si j'étais dans un mauvais rêve, on va dire, et que je savais pas ce qui se passait. Je commence à poser les premières questions, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? On me répond pas, on me dit on verra ça plus tard, repose-toi. C'était toujours les mêmes questions basiques des médecins. Est-ce que tu te rappelles de ton prénom, ta date de naissance, quel jour on est, quelle année? Moi je répondais qu'on était le 7 mai 2017 Le président, c'était François Hollande. Et j'avais complètement oublié du coup ce qui s'était passé. C'est-à-dire que on venait de changer de président, mais du coup je me rappelais pas. Je savais pas quel jour on était. Et je savais encore moins que j'avais passé 5 jours endormi. On me parle aussi du futur, qu'il va y avoir beaucoup de rééducation, que ça va être très long. Parce que moi je demande tout de suite en fait je sors quand? On me dit pas maintenant. C'est des séquelles assez importantes, c'est une infirmité permanente, c'est des troubles du sommeil. On m'a diagnostiqué un syndrome dépressif important. J'ai les dents qui sont cassées du coup. J'ai des acouphènes souvent le soir qui restent depuis l'agression. Je m'énerve très vite aujourd'hui, alors qu'avant, pas du tout. Et après, c'est vraiment des petits trucs, mais qui font que quand on ajoute à la liste, ça commence à faire beaucoup. Et puis, pour le travail, toujours, ça va être compliqué. Bon, déjà, j'ai pas pu reprendre de CAP comme je voulais le faire. J'ai pas pu passer de formation non plus. J'ai eu un an d'arrêt de travail qui ont été posés tout de suite. Et j'ai pas pu passer le permis, surtout. Étant donné que j'ai pas pu reprendre ni études, ni formation, ni travail, je touche et je bénéficie de l'allocation adulte handicapé, donc je touche vraiment une petite allocation qui me permet d'avoir un appartement, qui me permet de vivre, mais c'est pas ce que j'avais prévu pour mon avenir. Une semaine après, je récupère mon téléphone et mon premier réflexe, c'est d'aller sur les réseaux. Et puis là, je vois des articles, plein de messages. Du coup, je clique. Et puis en fait, là, je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et je commence à comprendre qu'on n'est pas dans une petite agression comme il s'en passe souvent. Je demande à ma mère. Elle commence à me dire, t'as été agressé, on pense que c'est des militants d'extrême droite. Moi, j'y croyais pas, je me suis dit, non, pourquoi des militants d'extrême droite nous auraient tabassés comme ça Et en fait, tout le monde me dit ça, et du coup, je commence à me dire, mais ok, oui, ça doit être ça. Mais toujours avec cette question de pourquoi des militants d'extrême droite nous ont tabassé, nous, qui n'avons rien à voir avec la politique. On fait partie d'aucun milieu politique. La réponse qu'on a eue au procès, c'est parce qu'on était habillés en noir et qu'on ressemblait à des mecs de gauche ou des antifa. Grâce à l'appel à témoins de ma sœur, on a des témoignages. On a la couleur d'un véhicule, on a une voiture. On a des noms et on donne tout ça à la police. Quand on leur parle de ça, leur première question c'est « Mais est-ce que vous êtes d'extrême gauche ?» Et on comprend assez vite que c'est ces profils-là, c'est des militants d'extrême droite qui militent au GUD, groupe Union Défense, donc un groupe violent d'extrême droite. Il n'y a eu aucune enquête. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun enquêteur qui est parti sur les lieux de l'agression prendre des photos ou récupérer les bouteilles qui ont été cassées, qui ont servi en tout cas pour nous casser la gueule. Il n'y a rien qui a été fait. Et ma mère, en sortant de l'hôpital, elle se dit « mais c'est pas normal ». Donc elle prend un sac poubelle et puis elle, en fait, elle récupère tous les trucs qu'elle trouve en fait sur place. Tout ce qui lui semble potentiellement nécessaire pour retrouver un ADN ou quelque chose. Elle va donner ça le 9 mai au commissariat, qui dans un premier temps lui répond que non, ça se passe pas comme ça, que c'est à eux de faire ça, et que s'ils l'ont pas fait, c'est que c'est pas nécessaire. Et à ce moment-là, il y a une journaliste qui rentre au commissariat et qui dit « Bonjour, j'ai entendu parler d'une agression. » Et du coup, ma mère, elle va vers la journaliste. Et un policier qui lui dit « Madame, 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 on va prendre du coup les affaires, on va les récupérer. Bien sûr, vous avez raison, ça peut nous servir. » Et du coup, ils ont récupéré tout ça. Et heureusement que ma mère, elle a fait ça, parce que c'est grâce à ça que... les enquêteurs ont retrouvé un ADN sur du coup un morceau de bouteille en verre qu'elle a récupéré sur les lieux. Les pressions, elles commencent du coup quand on apprend que déjà le procès va se passer en cour d'assises. Donc cour d'assises, on y juge en fait des faits qui sont criminels. Il y a ces premières pressions sur les réseaux sociaux, des comptes sans photo de profil ou des comptes qui viennent d'être créés, qui m'envoient des messages en me disant si vous allez en cour d'assises, il va se passer telle chose, on va vous retrouver, on va te retrouver, on sait qui tu es, on sait où tu traînes. Il y a des gens à Nantes qui te connaissent, ta photo, elle circule. Une ou deux fois, je crois que ça s'est passé, on m'a renvoyé la photo que ma sœur, elle avait postée à l'époque sur Facebook. Donc deux mois ensemble, laissés. Et on me dit, t'étais comme ça, la prochaine fois, tu seras pas juste comme ça. Enfin, on me fait comprendre que en gros, je prends d'énormes risques et que je risque de mourir si je continue à me défendre en fait. Et après donc on apprend les dates du procès. On sait que ça va se passer à Nantes pendant une semaine. Et puis là toujours il y a des pressions. Je réponds pas et puis je fais semblant que je fais semblant que ça m'atteint pas. En vrai je me dis quand même ah ouais c'est chaud parce que en soi nous on a rien fait. Donc pourquoi? On a été suivi plusieurs fois avec des potes, notamment je me rappelle d'une fois à la fête foraine, j'étais en train de faire un manège, on m'avait pris en photo, on avait envoyé cette photo au juge d'instruction avec un mot en disant vous voyez Erwan finalement il va très bien, il n'y a aucune séquelle, d'ailleurs preuve en est c'est qu'il fait des manèges à la fête foraine de Nantes. 1er mai 2021, on est en ville avec des potes. Il y a une manif. On n'est même pas vraiment dans la manif, mais on est vraiment sur le côté, quoi. Très rapidement, il y a tous les policiers de la BAC qui descendent des deux fourgons et qui courent sur nous. Très rapidement, le ton, il monte. Et puis, il me met une droite. En me regardant, il me fait « Ah, mais c'est toi qui mets les copains en prison. » Et puis, mon pote, il demande: vous parlez de qui? Puis le flic il me fait il sait très bien de qui on parle. Et puis ils partent. J'ai pas déposé plainte parce que j'avais déposé plainte une fois contre justement ce policier de la BAC. Et c'est un policier de la BAC qui a pris ma déposition. Et moi quand j'ai signé les papiers en fait ce que j'avais dit il y avait rien du tout. Sur le papier il y a juste marqué que je me plains soi-disant d'être trop souvent contrôlé et puis voilà, que j'aime pas ça, et puis c'est tout. Le premier procès qui se passe à Nantes, ça dure 5 jours. Et donc moi, le premier jour, je me réveille et j'ai pas de stress. J'ai juste le truc dans ma tête qui me fait dire pour la première fois de ta vie tu vas voir ceux qui ont voulu te tuer entre guillemets. Je reconnais très vite un de mes agresseurs qui me regarde et qui me fait un grand sourire en mode ouais je suis là. Et je l'ai dit à Steven, j'ai dit mais moi si c'est toute la semaine comme ça c'est moi qui vais finir dans le box des accusés, j'ai pété un plomb, je vais les taper quoi. Et puis ouais, non, en fait, ça se passe. Et puis, le moment qui m'a vraiment perturbé, c'est le deuxième jour. C'est l'interrogatoire de l'enquêtrice en charge de l'affaire. Quand la juge lui pose des questions sur les accusés, qui ils sont, dans quoi ils militent, c'est quoi les groupuscules, c'est quoi le GUD justement, elle a pas fait de recherche. Elle se souvient ni de ce qu'ils ont récupéré lors des perquisitions, donc des éléments comme des tableaux avec des croix gammées, des tracts fascistes, racistes, des armes. Il y avait une matraque télescopique, il me semblait, un poing américain. Et elle se souvient juste, bizarrement, que moi et Steven, on était dans le centre-ville ce soir-là et que pour elle, on est des militants d'extrême gauche. Mes agresseurs ont été condamnés, donc il y en a un qui a été condamné à 8 ans de prison avec mandat de dépôt. Et le deuxième, il a été condamné à 6 ans de prison, pareil avec mandat de dépôt. Les peines de prison sont données et puis il y a des policiers qui sont prêts comme si il y avait une manif dans le tribunal. Et je vois toute la bande, donc la famille des agresseurs et tout ça, sortir avec une dizaine de policiers qui les gardent, qui les sortent et qui les ramènent. Enfin voilà, ils traversent le pont du tribunal avec eux, pour les ramener à leur voiture, ou comme si voilà, c'était leur garde rapprochée et que finalement le danger il venait de nous. Alors que bon, pourtant c'est pas nous qui avons été condamnés, c'est nous les victimes en soi. Deux jours après, je suis sur Facebook et puis je vois un article qui parle du procès et puis je vois le titre. Donc, le titre, c'était un truc du genre procès du chafaud, un deuxième procès, point d'interrogation. Mon avocat, il me dit, bah si, il a fait appel, donc il y aura un prochain procès. Bon, on attend, et puis après on apprend que ça c'est à Vannes. Et donc, bon, on y va, et puis le dernier jour, le verdict est donné, on apprend que voilà, il y a une condamnation plus lourde pour celui qui a fait appel, donc, qui avait pris 8 ans en première instance et qu'il en a pris 10. Je le regarde dans les yeux et puis je lui fais un grand sourire, histoire de lui dire bah merci quoi, c'est cool. J'en avais pas demandé autant, moi 8 ans ça m'allait très bien, mais bon, bah, 10 ans c'est mieux. Et puis bah il me regarde et puis il me fait un geste en dessous la gorge en mode mais toi, tu sais même pas quoi. Et on part au Airbnb qu'on avait loué. On se pose sur la terrasse et puis là, on voit trois mecs qui étaient juste avant dans le tribunal et pas pour nous soutenir. Ils étaient côté agresseur. Du coup, bon, on se dit, bon, on va pas rester sur la terrasse, on va pas provoquer parce que ouais, ça sert à rien. Et très vite, on entend qui sont plus en bas, mais qui sont derrière la porte du Airbnb, qui commencent à frapper, à dire on sait que vous êtes là, vous êtes des antifas, nanana, ouvrez la porte. Donc j'appelle la police. Ils nous disent très clairement restez pas là cette nuit, quoi. Enfin, vous laissez tomber, vous rentrez à Nantes. Et du coup pour ça j'ai porté plainte avec photos et vidéos. Et donc j'ai donné tout ça au commissariat et puis on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas si ça va être suivi, s'il y aura quelque chose derrière, on ne sait pas du tout. Moi je pense pas parce que toutes les plaintes que j'ai déposées, que ce soit pour des menaces, que ce soit contre la police, contre les menaces que je reçois sur les réseaux, que ou autres, elles ont toutes été classées sans suite. Après la mort de Quentin Durand, néo-nazi mort à Lyon, moi je décide d'écrire un long truc sur ce qui m'est arrivé à moi. Je décide de raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que on en discutait avec un pote et puis mon pote il me dit mais c'est chaud quand même. Enfin, il y a carrément une minute de silence à l'Assemblée nationale. On est en train de dire que les antifascistes c'est des terroristes. Et du coup, moi, je décide d'écrire un petit peu ce qui m'est arrivé à moi. Je commence mon récit du coup sur Twitter par un message où j'explique de quoi ça va parler. Je marque mon agression par 5 faf le 7 mai 2017. Et je finis vraiment en rappelant que cette nuit-là, c'était pas du hasard, c'était une embuscade, on n'avait rien fait, j'avais 18 ans, ma jeunesse avait été volée par des nazis en roue libre. J'ai beaucoup de pseudos en invitation avec beaucoup de drapeaux français et fleurs de lys notamment. Et puis je me dis, bizarre, je lis les premiers messages, c'est « Ah ouais, tu continues d'ouvrir ta bouche en 2026, t'as pas compris en 2017 et tout. » Je vais pas me cacher d'exister non plus, et puis s'ils sont pas contents, bah c'est pareil. Aujourd'hui, je suis militant Antifa, avec mes potes, on va dans les manifs Antifa, et puis on continuera d'y aller pour montrer que bah ils ont essayé de me tuer, ça n'a pas marché, et puis que justement ça m'a rendu plus fort, et je continuerai d'être dans la rue, et que ça plaise ou que ça plaise pas, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis je serai là, et puis je continuerai d'être là.
C'était un reportage de Maxime Piono, réalisé par Louise André et mixé par Nicolas Leroulet. Sachez que par un complet hasard, l'un des bourreaux d'Erwan a fait l'objet d'une autre émission diffusée dans Les Pieds sur Terre en juin 2023. L'émission s'appelle Le Jeune Facho. Je vous conseille de l'écouter si vous voulez entendre le récit de l'autre point de vue, celui de l'agresseur donc. Pour tenter de comprendre comment un jeune homme de 18 ans a pu, au nom d'une idéologie nauséabonde, agresser celui que vous venez d'entendre. Merci à Erwan pour cette émission. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet.
Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. Don't you die. Justified, but wearing a bag, get your chosen white. You're justified, those that died, but wearing a bag, get your chosen white. Those who died are justified. But
won't wanna do what you tell me. Fuck, you won't wanna do what you tell me. Fuck, you won't wanna do what you tell me. Fuck, you won't wanna do what you tell me. Fuck, you won't wanna do what you tell me. Fuck, you won't wanna do what you tell me.